48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Bonjour Nico.
Salut.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 107e épisode du MAG de 48 FM dans lequel nous traitons deux sujets d'actualité. Aujourd'hui, nous parlerons dans un premier temps de l'ADMD, l'Association du droit de mourir dans la dignité, avec notre invité Marc Moulis, délégué départemental de cette association.
Bonjour. Bonjour.
Puis nous parlerons de l'accueil de loisirs sans hébergement maximum dans la seconde partie de l'émission, avec Pierre Delmas, directeur du centre de loisirs de Mende, accompagné d'une de ses animatrices.
Bonjour.
Alors on commence tout de suite avec vous, Marc Moulis. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est l'ADMD, en quoi consiste cette association ?
Alors l'association pour le droit de mourir de la dignité existe depuis plus de 30 ans. C'est une association qui regroupe 65 000 adhérents, dont 135 à Lozère. Et elle a un but simple et précis, c'est qu'aboutisse enfin en France une loi de liberté pour décider de ses conditions de fin de vie. Voilà, donc on se bat depuis 30 ans, on en parlera tout à l'heure, c'est pas simple. Donc ce qu'on souhaite, c'est que chacun en conscience puisse décider de sa fin de vie et non pas que quelqu'un décide pour nous.
Très bien, alors hier, lundi 2 novembre, se tenait un rassemblement, une manifestation à Paris, place de la République, organisée par les militants de l'ADMD. Le thème était la 8e journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité. Vous avez eu des échos de cette journée ?
Oui, parce qu'on était même connectés en direct. Donc en fait, oui, vous l'avez dit, c'est la 8e journée mondiale. Ça se déroule sur plusieurs dizaines de pays qui se battent pour cette loi de liberté. Donc nous, à Paris...
Quels sont les pays qui sont
Il y a des pays européens, des pays anglo-saxons et des pays du continent américain, principalement.
D'accord.
Peu sur le continent asiatique et quasiment pas sur le continent africain. Ça représente entre 70 et 80 pays qui se mobilisent à peu près.
Ah oui, quand même,
ouais.
Et donc vous avez assisté à cette...
Ah non,
cette
c'était journée. À Paris, donc je suis resté dans mon terroir lozérien, donc j'ai organisé nos propres manifestations, puisque l'objectif c'était qu'on mobilise au niveau national, donc nous sommes 135 délégations sur tout le territoire, et donc chaque délégation organisait ses manifestations. À Paris, il y avait un énorme mouvement, on va dire... de contestation et de mobilisation par rapport aux décisions de justice récentes, on en parlera peut-être tout à l'heure, avec de nombreux acteurs connus, mais il y a aussi quelques hommes politiques qui mouillent la chemise sur le sujet, donc c'était Place de la République. Et je crois que ça a eu, pour avoir des retours, via notre site web, des retours importants. Ouais.
Alors pour les auditeurs, pour être assez précis, en fait, le droit à mourir dans la dignité, en fait, pour vous, ça représente quoi ? Le droit à l'euthanasie ? Ou est-ce que c'est un raccourci un peu
non,
un peu rapide, c'est ça ?
On peut utiliser le mot euthanasie qui choque beaucoup de gens, mais je rappelle que dans la racine étymologique grecque de l'euthanasie, ça veut dire « bonne mort ». On sait qu'en France, pour des raisons diverses et variées, ça peut faire peur. Donc nous, on prône l'euthanasie, on va dire, pour tout un chacun s'il le souhaite, à condition bien sûr d'être en fin de vie, on est bien d'accord, on n'est pas là pour tuer qui que ce soit. Et on est là aussi pour prôner ce qui se fait dans d'autres pays, le suicide assisté.
Puisque c'est un mot qui fait peur aussi, ça.
Le suicide assisté, ça fait peur. Mais c'était l'objet du film de hier soir, donc peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure.
Oui, oui.
Le suicide assisté, puis c'est aussi l'affaire Jean Mercier. Donc voilà, nous on est là. Pour l'euthanasie, qu'on appelle maintenant, grâce à nos chers parlementaires qui trouvent toujours des interprétations différentes pour ne pas choquer, on appelle ça l'aide médicale à mourir. Voilà.
D'accord.
Donc on a banni le mot euthanasie qui peut en effet choquer, on appelle ça l'aide médicale à
mourir. Mais qu'est-ce qui fait problème dans la société aujourd'hui, depuis des décennies, hein, parce que c'est pas nouveau, qu'est-ce qui pose problème aux législateurs aujourd'hui pour légiférer en faveur de cette euthanasie ?
Oh, bah, je crois que
le fond du souci, c'est quoi ?
C'est un fait sociétal, tout simplement. Donc on a vu les remous que le mariage pour tous a pu générer dans ce pays. On se bat contre des lobbies très forts, dès qu'on touche à la vie ou à la mort. Donc le lobby principal, c'est le lobby des médecins, bien évidemment.
Fait.
Et puis il ne faut pas se le cacher non plus, c'est le lobby des catholiques intégristes, qui sont très puissants et qui ont des moyens financiers que nous n'avons peut-être pas et qui font en sorte que rien n'aboutisse, voilà. Donc les médecins aujourd'hui en France...
Ils sont partagés, les médecins en France, non ?
Disons que l'ordre des médecins qui représente des médecins est farouchement opposé, on va dire, aux conditions.
Et quelles sont les raisons, en fait? C'est le fait qu'on n'arrive pas à gérer, que ce serait la porte ouverte sur des débordements, c'est ça?
Exactement, les propos qui sont tenus aujourd'hui, puisqu'actuellement c'est en cours d'examen au Parlement, plus exactement au Sénat cette semaine, ce que mettent en avant les médecins, il y a beaucoup de médecins parmi nos chers députés ou sénateurs, ce qu'ils mettent en avant, c'est les risques éventuellement, les dérives éventuelles que pourraient représenter ces choix de fin de vie, ce qui est totalement faux.
Mais si la loi cadrait ça, enfin la façon de...
Ben ça suffit pas, visiblement.
Ça suffirait pas.
Non, ça suffit pas, puisque ça fait peur, exactement, puisque derrière, la loi pourrait protéger juridiquement les médecins qui devraient recourir à ce genre de situation, mais visiblement, ça ne suffit pas, parce que derrière, c'est, comme je dis, c'est un phénomène de société qui peut heurter bon nombre de personnes. Quoi.
D'accord.
Vous l'avez suggéré rapidement tout à l'heure, un film... En Lozère a été projeté en avant-première à Marvejols.
Ouais.
C'était hier soir.
Hier soir, oui.
Vous avez eu un retour, vous y étiez peut-être.
Oui, c'est voilà. Moi qui ai présenté le film. Alors, d'abord, je précise que j'ai choisi Marvejols parce que je suis marvejolais.
Oui.
Et puis, dans notre association, donc, nous sommes 135, nous avons décidé que les animations de l'association devaient se dérouler sur des villes de façon tournante, c'est-à-dire que Mende, Floirac, et puis Marvejols, et la fin du mois à Saint-Chély. Donc, ça va permettre à nos adhérents, qui sont parfois des personnes âgées, d'éviter de se déplacer toujours sur le chef-lieu. Donc, hier soir, on l'a fait à Marvejols. Il y avait 125 personnes. Quasiment le cinéma était plein, ce qui est quand même un petit
exploit. C'était au cinéma de Marvejols.
Oui, au petit Trianon. Ouais, ouais. Et donc, le film, c'est un film qui va sortir sur les écrans demain, qui sera projeté en Lozère à partir du 12 pour le cinéma de Mende. Et c'est un film qui est inspiré d'une histoire vraie, c'est-à-dire c'est la fin de vie de Mireille Jospin, qui était la maman de notre ancien Premier ministre, et qui a fait le choix, quand elle a senti que les forces l'abandonnaient, de réunir ses enfants et de leur dire qu'elle avait choisi... de mettre fin à ses jours de façon un suicide assisté. Voilà, c'est un film à la fois prenant et un film très drôle, puisque Marthe Villalonga, l'actrice principale, est exceptionnelle dans ce rôle-là, comme
Mais
Sandrine Bonner.
Mais c'est un film Bonner. Documentaire ou c'est...
Ah non, c'est un film inspiré d'un livre.
C'est une fiction, en fait, mais inspiré
d'un livre, d'un événement réel, hein, puisque c'est vraiment la fin de vie de Mireille Jospin, qui est un personnage extraordinaire, qu'on connaissait peu, mais qui a
beaucoup influencé son fils, d'ailleurs.
Exactement, une femme droite, une femme de caractère très forte.
Il en a beaucoup parlé, d'ailleurs, Jospin.
Qui était exactement une femme militante, convaincue, sage-femme, donc
très
qui a toujours milité, une femme droite, et comme elle disait, libre de sa parole, et je crois que jusqu'au bout, même quand son fils était Premier ministre, elle a toujours gardé sa parole.
Très bien, donc la sortie nationale est prévue pour demain.
Demain, mais en Lozère, nous l'aurons avec un petit décalage, vous le savez. Donc,
le nom du film, c'est
La dernière leçon.
D'accord. Alors, vos critiques par rapport à ce film?
Bon, moi, je n'ai pas beaucoup de critiques à faire. Disons que ça dure 1h45. Pendant 1h45, on ne s'ennuie jamais. Donc, il y a deux actrices exceptionnelles, je le dis. Hein, ce n'est pas parce qu'elles jouent dans ce rôle. C'est Sandrine Bonner, mais qu'on connaît tous, hein, qui joue le rôle de la fille. Et qui a donc, après avoir beaucoup réfléchi, décidé d'aider sa maman. Parce que ce n'est pas une décision facile à prendre. Donc, une fois qu'elle a bien réfléchi, elle va passer...
D'accompagner sa maman.
Alors, exactement. Elle va passer les derniers jours, les dernières semaines avec sa maman pour la rendre la plus heureuse possible. Jusqu'au jour fatidique où sa maman va lui annoncer que c'est ce soir. Et ce soir, c'est sa fin de vie. Donc voilà, c'est tout le film repose là-dessus.
Ouais.
Et Lionel Jospin, qui est joué dans le film par Antoine Duléry, qui est aussi un très bon acteur, se révèle sur un angle qu'on connaissait peu. Lui, il était farouchement contre la mort de sa mère.
D'accord.
Donc jusqu'au bout, il a été très malheureux. Je pense que parmi ceux qui sont restés, c'est certainement celui qui a dû avoir le plus de mal à accepter les conditions de fin de vie de sa mère.
Mais il y a eu pas mal de films qui traitent de l'euthanasie.
Oui, il y en a pas mal.
L'accompagnement de fin de vie.
Il y a eu Fin de partie, il y a quelques années. Il y a eu aussi un film avec Vincent Lindon il y a 5-6 ans. Il y a eu un film récent, un film israélien.
Mais il y a eu un très vieux film fait par un Japonais, La montagne de Narayama.
Exactement, c'était le premier.
Qui traite de ça de façon extraordinaire. Ouais. Que c'est un film d'anthologie d'ailleurs, qu'il faut regarder.
Magnifique, magnifique.
Qu'on accompagne. Bon, c'est terrible en même temps. Hein.
C'est très difficile et très dur. Parce qu'il faut le vivre. Donc,
c'est Kurosawa, je crois, qui a fait ce film.
Et c'est important parce que ça permet aux personnes qui prennent ce choix, qui font ce choix de partir dans la dignité sans connaître la différence. Quoi. Parce que nous, ce que l'on ne veut pas, c'est que les personnes qui souffrent, parce que bien évidemment, c'est la fin de vie, donc c'est souvent de la souffrance inutile, ça ne sert à rien de maintenir sur
vie depuis très bizarre.
C'est de l'acharnement thérapeutique dans bon nombre de cas, oui. Et c'est bien regrettable.
D'accord, donc un film à voir, à conseiller, hein. Apparemment ça vous a beaucoup plu.
Moi, oui, mais ça m'a plu, donc j'en profite sur vos ondes pour annoncer qu'on aura une projection débat le 16 novembre à 20h30 au Trianon de Mende. Donc ça permettra à la fois de voir le film et puis d'échanger, ça me permet de présenter l'association et puis de répondre aux questions que les spectateurs peuvent se poser à la fin du film.
D'accord.
Parce qu'en effet, c'est un film qui touche et qui percute les esprits pour certains. Ouais.
Il y a un accompagnement un petit peu particulier à avoir à la fin de ce film avec les gens qui viennent ou pas du tout?
C'est-à-dire que hier soir, ce qu'on a fait, je crois que c'était une avant-première là aussi en France, c'est-à-dire que hier soir, l'initiative de Marthe Villalonga, d'ailleurs, qui nous l'avait fait savoir, on a remis à chaque spectateur un petit questionnaire qu'elle a bâti elle-même, 10 questions,
d'accord,
et qu'elle souhaite avoir en retour. Donc hier, à Marvejols, les spectateurs ont été particulièrement attentifs au film, et je crois que sur les 120 spectateurs, je dois avoir une centaine de questionnaires en retour, ce qui veut dire que les gens sont restés et l'ont rempli.
Ah oui, c'est bien.
Vous avez joué le jeu, oui.
Elle souhaite savoir si le rôle tel qu'elle l'a joué, ça correspond à ce que les gens connaissent, ce que les gens connaissent la fin de vie, ce que les gens connaissent les directives anticipées. Enfin voilà, c'est, pour elle, c'était important. Parce que c'était
une question qu'elle se pose, elle, Marthe.
Bien sûr. Ouais. Marthe Villalonga est une femme qui se...
Elle est adhérente à...
Bien sûr.
Ouais, d'accord.
Oui, bien sûr. Et elle pense que, comme elle l'a dit, j'ai tout de suite été convaincu par ce film parce qu'elle se retrouve dans le personnage de Mireille Jospin. Très fort caractère, femme indépendante,
ah oui,
femme libre. Donc ouais, elle dit, je souhaite partir debout. Donc ça veut dire qu'elle ne souhaite pas mourir sur un lit d'hôpital avec...
Ou sur scène.
Ou sur scène, ce qu'on peut lui souhaiter. Moi, je ne peux lui souhaiter que le meilleur.
C'est le rêve de tout comédien, voilà, de se dire... Enfin, le rêve, voilà, en tout cas, l'espoir de tout comédien de finir sa vie sur scène. Hein.
Bien sûr.
Donc, un film marquant à aller voir pour les Mandois, en tout cas, à partir du 12 novembre au Trianon. Et pour revenir un petit peu à l'association, faut-il avoir une histoire particulière avec ce droit, donc de mourir dans la dignité, pour faire partie de l'association ou...
Non, du tout. Je crois que tout un chacun est libre en conscience d'adhérer ou de ne pas adhérer à l'association. Je pense que, bien évidemment, pour beaucoup de nos adhérents, c'est les gens qui l'ont vécu, par des proches, hein, par la mort de proches. Mais c'est surtout aussi parce qu'on en parle beaucoup dans les médias. Et puis il y a des affaires médiatiques aujourd'hui qui sont quand même très fortement...
Mais qui ressortent, là.
Mercier, Bonne Maison, le Vincent Lambert qui percute et qui choque les gens, parce qu'aujourd'hui, savoir qu'on a, par exemple, un Vincent Lambert sur lit d'hôpital dans un coma, hélas, irréversible, hein, avec une famille qui se déchire, qui s'étripe devant tous les médias, on va dire, d'Europe, c'est une affaire que personne ne souhaiterait avoir et vivre, quoi.
Mais pourtant, c'est bien le fond du problème, c'est-à-dire jusqu'où peut aller la loi et jusqu'où la loi donne... la possibilité à tout un chacun de choisir de son heure de départ, c'est ça?
Oui.
C'est vrai qu'on est sur Terre, on est normalement né libre et égaux, alors devant la mort, je ne sais pas, je ne crois pas.
Non, mais pour l'instant, on ne l'est pas.
Voilà, on l'est pas. Mais en même temps, quand on fait partie d'une société, on peut comprendre qu'il y ait aussi un cadre qui évite des dérives. Comment on peut lier à la fois ce droit à l'existence et aussi le droit de disparaître quand on en a envie? Avec un cadre de société moderne qui peut empêcher certaines dérives ou certaines personnes de se libérer de contraintes.
En France, vous savez que tout passe par la loi, hein, ce qui est aussi normal, puisque c'est un pays républicain. Par contre, voilà, notre travail à nous, c'est de continuer à se mobiliser pour qu'enfin on ait cette loi, parce que tant qu'on n'a pas de loi, on
en
est
fait,
dans un cadre illégal.
C'est ça ?
Pardon ?
Il y a un vide juridique.
Oui, complètement. Mais ouais, complètement. Bon, on le voit bien avec l'affaire Vincent Lambert. Aujourd'hui, Vincent Lambert, qui a eu cet accident de moto, qui n'avait pas rédigé ses directives anticipées. C'est important parce qu'en France, peu de gens savent ce que c'est et à quoi ça sert.
Alors, c'est quoi les...
Alors, directive anticipée, c'est que tout un chacun, nous cinq dans le studio...
Écoutez bien les jeunes, là.
Ouais, nous, les jeunes, c'est particulièrement important, les jeunes, ouais, parce qu'ils me disent toujours, oui, mais on n'y pense jeunes, pas parce que ça ne nous tombera pas dessus. Le problème, c'est que là,
c'est difficile de se projeter quand on n'a pas vécu
ce
genre de situation, de se retrouver avec une personne qui est dans ce besoin-là de mourir parce que, justement, il y a une difficulté...
On appréhende difficilement la situation, c'est un fait. Mais les directives anticipées, c'est tout simple. C'est un document que l'on remplit, tout un chacun, en conscience, bien sûr, hein, tant qu'on est en capacité de décider. On choisit une à trois personnes de confiance, qui peuvent être des proches ou des amis, qui décideront à notre place le jour où on sera en capacité de décider, c'est-à-dire qu'ils parleront à notre place aux médecins, au corps médical.
Ça demande une confiance totale.
Pardon ?
Ça demande une confiance totale dans la personne.
C'est pour ça qu'on appelle ça des personnes de confiance.
D'accord, ouais.
C'est un mot très important. Donc moi, par exemple, à titre personnel, j'ai voulu choisir ma sœur. Donc c'est pour vous dire que souvent, moi, je dis... Évitez les proches, parce que les proches, c'est quelque chose de très difficile.
Ils n'ont pas la distance, c'est
voilà,
ça.
Ma sœur, ça m'a pris 3 semaines pour la convaincre. Parce qu'elle comprenait ça comme étant, mais il va t'arriver quelque chose, et si t'arrive quelque chose, je devrais gérer à ta place. Voilà, donc ça a mis du temps. Voilà. Donc parfois, avec un
ami... Alors pourquoi choisir quelqu'un
Parce que c'est souvent les personnes qui partagent nos convictions. Donc, si on choisit un proche, on peut en parler en toute transparence et en toute honnêteté. Et, quelqu'un qui partage nos convictions, c'est plus facile, on va dire, qu'un très proche qui vous aime passionnément et qui peut même pas imaginer que vous puissiez arriver à partir un jour. Alors que pourtant, 100% des Français vont mourir.
Et oui, c'est tout ça. Est-ce que la difficulté, c'est justement un peu l'ouverture, ça ne veut pas en parler de ça.
Mais c'est français, vous savez ce qu'on dit, l'oser, ça paraît dire, ça paraît faire. C'est-à-dire, on ne dit pas, on ne fait pas, mais bon, au bout d'un moment, il faut aussi que, même au niveau national, on puisse lever le voile. Hein. C'est important qu'on puisse dire qu'un jour, la mort.
C'est un débat de société comme la peine de mort, comme tout ça.
Pareil,
c'est exactement ça. Je pense que le sujet de la mort reste quand même quelque chose d'assez tabou dans notre société occidentale, on va dire.
Totalement ça. Totalement ça. On ne parle pas de la mort. C'est terrible parce qu'on devrait en parler puisque la mort c'est jamais qu'un phénomène de vie, c'est la fin de la vie, c'est ça qu'on dit. Donc et on a du mal en France à appréhender des sujets. Juste à titre d'information par rapport à ce que vous dites, la première loi sur le sujet en Suisse remonte à 1918. On n'a jamais qu'un siècle de retard. Oui, c'est... Donc comme quoi il y a des pays où les choses ont été.
Alors, dans certains pays, qu'est-ce qu'on a en fait ? On a une vraie loi sur
l'euthanasie.
Ça consiste en quoi ?
En Suisse, par exemple, vous avez donc à la fois l'euthanasie et le suicide assisté. Hein. Il y a des établissements spécialisés qui sont créés. Et tout un chacun est libre d'aller mourir dans un établissement spécialisé. En Suisse, c'est dans la loi. Donc c'est comme un fait funéraire. C'est gratuit. D'accord. Hein. Le Suisse peut aller mourir dans un établissement. Alors donc, pour les Suisses, c'est gratuit parce que c'est dans la loi. Donc chacun, le jour où il est au bout de ses forces ou qu'il est atteint de maladies irréversibles, peut aller dans un établissement spécialisé, équipé, avec un accompagnement psychologique et des médecins, qui sont des médecins conseils, choisir sa date. Et puis, le moment venu, le soir dans sa chambre, prendre l'injection ou s'injecter le produit létal ou alors avaler un cachet qui met fin à ses jours. C'est des cadres juridiques très stricts en Suisse. Dans les pays du Benelux, ça va au-delà, puisque dans les pays du Benelux, Belgique, Hollande et puis Luxembourg, la mort assistée peut se produire au domicile.
D'accord.
Le patient peut mourir à son domicile, entouré de ses enfants.
Il est accompagné aussi médicalement.
Exactement. Ouais. Mais avant, puisqu'après, quand il est chez lui, c'est là qu'il injecte le cachet. Ou qu'il
On a quand même le droit de suspendre.
Exactement. À tout moment.
À tout moment.
À tout moment. Mais il y a des personnes à qui c'est arrivé, qui ont souhaité dire je veux vivre encore quelques semaines de plus, je veux voir mes petits-enfants quelques jours de plus. Voilà, c'est bien sûr que chacun est libre, heureusement. D'ailleurs, c'est ça la loi de liberté, c'est que chacun peut décider. Quoi.
Mais est-ce que cette situation fait que des personnes en France partent à l'étranger
pour... Oui, bien sûr. Et oui, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des centaines de Français qui partent en Suisse. Parce que la Suisse...
Donc on ferme les yeux, en gros. Il n'y a pas de loi en France, mais on le laisse faire en Suisse.
Ouais, oui, c'est pour ça qu'on appelle ça la loi. Le manque de loi hypocrite, parce qu'on sait que ça se produit. D'accord. Et qu'il y a des Français qui, entre guillemets, ont les moyens. Parce que ça coûte cher pour un Français, ça coûte entre 4 et 9 000 euros. Hein. Donc tout un chacun ne peut pas se permettre ce genre de situation. Mais il y a beaucoup de Français qui, dans le désespoir d'une maladie... principalement, c'est des maladies de cancer en phase terminale. Hein. Les gens ne veulent pas souffrir, donc ils préfèrent partir en Suisse.
Avez-vous assisté personnellement, de près ou de loin, à une telle prise de décision ?
Oui, moi je l'ai vécu, oui, je peux le dire, faut pas se leurrer. Aujourd'hui en France, malgré ce que peuvent dire nos chers mandarins, l'euthanasie légale est pratiquée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux, des médecins qui ne veulent pas l'admettre mais le pratiquent tous les jours, réunissent les membres de la famille et disent « Est-ce que vous êtes d'accord pour ?» Et il suffit qu'on ait l'ensemble de « oui », enfin tous les « oui », des frères et sœurs ou du proche pour que ça se passe. Il n'y a rien de plus n'est dit. Oui. Mais on sait qu'il se passe quelque chose derrière qui met fin à la vie de la personne qu'on aime et qu'on ne veut pas voir souffrir. D'accord. En France, juste pour ça, c'est important. Hein. C'est pour ça que c'est hypocrite, parce que les derniers sondages qui ont été faits, c'est pas un sondage, alors c'est des chiffres réels de l'Institut National, il y a eu en 2013 4500 euthanasies illégales.
C'est 4500
euthanasies illégales pratiquées dans les centres de soins et hôpitaux français. Ça représente 0,9% des morts en France. Donc c'est hypocrite parce qu'on sait que ça se produit, mais personne ne veut le reconnaître dans la loi.
Le nombre de personnes en faveur de ce droit, l'euthanasie, semble important. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas ? Il y a une opposition, un refus de l'État, du gouvernement ?
C'est exactement ce qu'a dit votre collègue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, il faut passer par la loi. Donc la loi, c'est le Parlement, sénateurs et députés. Et tant qu'on n'aura pas une loi avec une majorité pour faire voter cette loi de liberté, on n'y arrivera pas. Vous avez beau avoir 90% des Français qui sont favorables à une mort assistée.
On a des chiffres précis.
Oui, 90%.
Mais c'est les chiffres qui
sont faits par un institut de sondage, hein, qu'on connaît tous, l'IFOP, hein, qui mesure, on va dire, l'intérêt des Français pour ce sujet. Et ça ne fait que s'accroître, puisqu'au dernier sondage, entre guillemets, on doit être à 92%. D'accord. Donc malgré ça, vous voyez, 92%, et les députés n'ont pas jugé utile de se présenter en séance début octobre. Donc voilà. Mais on sait pourquoi, hein, c'est un problème sociétal. On n'est pas prêt aujourd'hui, à quelques mois d'une échéance électorale majeure, de se lancer dans ce genre de débat qui pourrait opposer une frange de la population par rapport à une autre.
Il faut faire en début de mandat.
Exactement.
Donc il va falloir
le prochain.
Mobiliser sur les prochaines échéances.
Ben, c'est notre action, mobiliser. Et pour mobiliser, il faut peser, c'est-à-dire qu'il faut adhérer, parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait tous un chiffre en tête. Une association militante comme la nôtre, comme d'autres, commence à peser, c'est-à-dire à intéresser les politiques quand elle pèse à peu près 1% de la population. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes 65 000 au niveau national, ça s'accroît tous les jours, mais c'est pas suffisant, il faudrait qu'on soit au moins 400 000. Au niveau national, j'entends. Ça veut dire, sur la Lozère, on est 135, il faudrait qu'on soit à peu près 400. Là, vous commencez à peser. Donc l'action militante est importante. Il ne faut pas baisser les bras, même si depuis 30 ans, on a été nombreux. Et moi, je ne suis qu'un nouveau délégué départemental qui est à l'œuvre depuis le mois de juillet. Donc,
d'accord. Alors chez vous, en fait, ça s'appelle délégué
départemental.
D'accord, parce que vous avez une présidence, un secrétaire,
oui.
C'est ça?
Oui, nous avons un président qui est Jean-Luc Romero, qui est donc président de l'ADMD France. Il y a un secrétaire général. Et ensuite, il y a bien sûr un conseil d'administration et des délégués départementaux. On est 135 parce que les gros départements sont parfois scindés en deux.
Donc là, dans vos méthodes de on va dire de communication pour faire adhérer les gens, il y a ce genre de...
C'est les événements.
Il y a ce genre
l'événementiel,
il y a des conférences,
voilà.
Puisque l'année dernière, exactement. Je crois qu'il y a une conférence avec l'MGN, hein, sur,
oui, tout à fait.
Qui était très, très intéressante.
Donc là, pour la 8e journée mondiale de la dignité, nous sommes une petite délégation à Lozère, mais c'est proportionnel à notre petit département, mais bien joli département. Donc on va faire trois manifestations. On en a fait une samedi, où on a fait ce qu'on appelle une opération sortie de caisse dans la plus grande surface alimentaire de Mende. Je ne citerai pas le nom, mais bon, je pense que tout le monde a compris. Donc, on a pu voir à peu près 300 à 350 personnes. Donc, sortie de caisse, ça veut dire...
Parce que ça m'a fait bizarre, sortie de caisse.
Ouais, sortie de caisse, ça veut dire qu'on n'est pas là pour piquer dans le panier. C'est simplement qu'on interpellait les gens, bien sûr, à la sortie pour ne pas les gêner. On leur demandait s'ils connaissaient l'association, leur remettre en prospectus, un dépliant. Et puis, on les a invités à la projection de Mende le 16 au soir.
Et vous ne pouvez pas faire une pétition au niveau national?
National, ça n'a pas été fait. Par contre, ça a été fait en Lozère il y a 2 ans par les prédécesseurs. Elle avait recueilli 723 signatures. D'accord. Donc, mais elle a été remise aux parlementaires, voilà, sans suite.
D'accord.
Comme beaucoup de pétitions, mais comme vous dites, il faudrait qu'elle soit nationale et qu'elle requiert.
Juste avant une échéance
électorale. 200, 300 000.
C'est à peu près l'idée, quoi.
Et est-ce qu'elle est en préparation, justement, cette pétition nationale?
Non, pas pour l'instant, non. On va
faire pour 2017.
Non. Je pense qu'on va interpeller les candidats. Ça
oui,
me paraît la moindre
sûr,
chose.
De toute façon, pour faire évoluer les choses, il faut qu'il y ait une prise de conscience.
Exactement.
Et un engagement, au moins, dans la partie préélectorale. Quoi.
Bah, c'est-à-dire que notre cher président François Hollande avait pris l'engagement 21, pour ceux qui s'en souviennent. Il avait rappelé qu'il avait pris une centaine d'engagements. Et donc l'engagement 21 concernait les conditions de fin de vie, mais il ne l'a pas suivi, il ne l'a pas honoré pour l'instant. Il reste quelques mois encore. Hein. Mais bon, l'engagement 21 n'a pas été tenu par le président Hollande.
D'accord, ce jour.
À ce jour.
Mais c'est peut-être le moment de rappeler les engagements.
C'est ce qui a été fait hier soir.
D'accord.
Par l'ensemble, y compris les gens de son camp. Hier soir, il y avait Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale. Il y avait Anne Hidalgo, la maire de Paris.
Je pense que ça dépasse en fait l'aspect politique, purement politique, politicienne. Que c'est un débat de société
Exactement.
Dans lequel les partis politiques sont très partagés.
Exactement.
Puisqu'il y a des conservateurs, des...
On l'a vu dans la répartition.
Partout, hein, que c'est compliqué, quoi.
On l'a vu dans la répartition des votes. Hein. Aujourd'hui, il y a des personnes qui souhaitent s'engager, puis d'autres qui préfèrent rester sur la réserve parce que par conscience, elles ne souhaitent pas ou elles ne partagent pas nos idées. C'est normal, il faut respecter les opinions de chacun, hein. Qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche. Hein,
c'est une question culturelle aussi, non?
Bien sûr. Mmh. Ben, c'est un pays latin. Donc, comme tous les pays latins, on ne va pas dire qu'on est la première, la première fille de l'Église, je crois. Hein. Donc vous avez la culture.
La prégnance du judéo-christianisme.
Exactement.
Culture, c'est sûr.
Et du coup, c'est l'aspect de en fait, fin de vie qui est compliqué à décrire et être sûr qu'on rentre dans ces conditions. Pour les pays dans lesquels l'euthanasie est acceptée, où on a une loi qui est derrière, est-ce qu'il y a
des chiffres qui montrent que voilà, des personnes peut-être ont subi l'euthanasie, etc., qui n'avaient pas de raison d'être. Est-ce que c'est ça la méfiance un peu du gouvernement français, qu'on en abuse, par exemple?
Pablo Escobar, il y en a beaucoup qui ont été euthanasiés et qui n'avaient pas choisi.
Non, mais par rapport à votre question, je crois qu'on a des chiffres assez précis sur les pays du Benelux et sur la Suisse, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on veut bien dire, parce qu'en France, on nous fait savoir que si jamais c'était légalisé, il y aurait tout un tas de dérives, enfin voilà, chacun qui se sent pas à l'aise pourrait dire « je veux mourir demain », ce qui est totalement absurde. Donc moi, j'ai toujours un chiffre en tête, celui de la Belgique, qui a légalisé l'euthanasie depuis 11 ans quand même déjà. Donc les derniers chiffres de Belgique en 2013, c'est il y a eu 1,7% des décès par euthanasie. C'est quand même très faible.
Oui.
Alors qu'en France, alors que l'euthanasie est illégale, on a quand même pratiqué 0,9% de décès par euthanasie. Donc je ne vois pas où est la dérive, et surtout pas, parce que je crois qu'il faut être conscient que personne ne souhaite utiliser ça comme étant un moyen de mettre fin au jour de gens qui ne le souhaitent pas ou qui ne le...
Après, ça s'appelle un contrat.
Ouais, c'est un peu un contrat. Ouais. On ne sera pas sur le contrat de confiance, mais bon. Non, mais je crois que ça, c'est des arguments de...
Et dans la loi, en fait, qu'est-ce qu'on préconise? Par exemple, on préconiserait que les gens nomment une personne de confiance, c'est ça?
Nous, dans la loi, on avait proposé trois choses. On avait proposé donc l'euthanasie, ou l'aide médicale à mourir, comme les parlementaires l'ont souhaité. Je rappelle qu'ils avaient fait la même chose il y a 40 ans avec Simone Veil quand elle avait lancé l'avortement. Le mot avortement ne leur plaisait pas, ils avaient transformé ça en IVG.
D'accord.
Interruption volontaire de grossesse. Paraît-il que ça passait mieux dans l'esprit des gens. Donc là, ils nous auront fait le coup 40 ans après. Ils ont dit euthanasie, ça choque. On va mettre plutôt aide médicale à mourir. Bon, enfin, voilà, on en est là aujourd'hui. Ça vole pas haut. Donc on préconise ça plus le suicide assisté. Et enfin, dernier point. Nous, ce que l'on demande, c'est que les directives anticipées soient opposables à un médecin. C'est-à-dire qu'en France aujourd'hui, c'est le médecin qui décide de notre mort. C'est pas nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans une situation irrémédiable, c'est le médecin qui décide de vous maintenir en vie le temps qu'il le souhaite, puis le temps que peut-être il fasse un petit peu d'acharnement s'il estime de le faire ou pour occuper un lit. Et donc les directives anticipées, aujourd'hui, il n'y a qu'un pour cent des Français qui les ont rédigées. C'est excessivement peu. Donc c'est la possibilité donnée à tout un chacun de rédiger son document pour désigner une à trois personnes de confiance qui... décideront à votre place.
Il faut que ça passe devant huissier ou devant...
Non, du tout. Non, c'est un document
qui... Ça fait quoi, même si...
Le problème, c'est que quand elle sera dans la loi, parce que pour l'instant, ça y est, mais bon, dans la prochaine loi, ça va être mis avec... Ils ont rajouté une phrase comme en disant que les directives anticipées seront opposables, mais c'est le médecin qui décidera. C'est-à-dire que si le médecin les juge inappropriés, il les rejettera.
Ouais, donc
ça veut dire que voilà, ça change rien, quoi. Donc,
on en tiendra compte, mais dans la mesure où voilà, le médecin serait contre.
C'est le médecin qui dira au dernier moment, je ne partage pas l'avis du patient ou de ces personnes de confiance, donc je souhaite ne pas en tenir compte. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est qu'il soit vraiment opposable. C'est-à-dire qu'une personne.
Est-ce qu'il n'y aurait pas la nécessité de créer une commission paritaire où la famille serait représentée en même temps que le médecin?
Ça peut être une solution, oui.
Avec ce droit-là, et du coup, après, ouais. Un vote à main levée pour décider...
Pourrait être prévu dans la loi, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, et c'est bien dommage. Donc, il y a un événement qui est important, qu'on a, nous, souhaité dans l'amendement qui a été rejeté au Parlement là, il y a 15 jours. On n'a même pas été capable de prévoir, c'est-à-dire les réponses au cas Vincent Lambert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune ou un moins jeune, qui est victime d'un accident et qui se retrouve dans un coma irréversible, qui n'a pas rédigé ses directives anticipées, vous voyez s'opposer d'un côté l'épouse, qui souhaite qu'on mette fin à la vie de son mari, et ensuite la mère, qui elle dit « mon fils doit vivre ». Donc aujourd'hui, on en arrive à des affaires qui sont juridiquement très médiatisables, mais des familles qui se déchirent complètement. Alors nous, on a proposé ce qui se fait en Belgique, ce qui se fait en Suisse, c'est-à-dire comme une succession notariale. S'il arrive un jour que la première personne qui décide, c'est l'épouse, le conjoint, ensuite c'est les enfants majeurs, ensuite c'est les parents, et ensuite c'est les frères et sœurs. Ça paraît tout bête, mais même ça, ils ne l'ont pas retenu. Ils préfèrent laisser le vide. Et laisser que, si ce genre de situation se reproduit, on aura encore des cas Vincent Lambert sur le territoire, avec personne ne savoir qui va décider. Même là, c'est monté à la Cour européenne. Décision de mettre fin au jour de Vincent Lambert n'a pas été appliquée par le médecin, qui a subi des pressions, qui l'a dit. C'est passé au tribunal administratif. Voilà, on en est là aujourd'hui.
Donc il refuse tout simplement, mais derrière il ne propose aucune loi qui pourrait...
Mais la loi qui va être votée, là, parce qu'hélas, elle va être votée, cette loi Leonetti, là, qu'on appelle... mais dedans, il n'y aura rien. C'est la même chose qu'il y a 10 ans, c'est la même chose qu'il y a 5 ans. C'est-à-dire que là, il a simplement proposé... Donc, Leoniti, pour préciser, quand même, c'est un député des Alpes-Maritimes qui...
Un médecin,
voilà. Donc aujourd'hui, c'est un médecin qui agit pour son, entre guillemets, ses intérêts, on va dire comme ça. C'est un lobby, les médecins. Donc aujourd'hui, il ne fait que ripolliner, comme on dit chez nous, sa loi. Et donc là, ils vont proposer éventuellement que soit intégré ce qu'on appelle la sédation profonde. Alors la sédation profonde, c'est la pire des choses, puisqu'en fait, c'est mettre fin à la vie des gens par la suppression de l'hydratation et de la nutrition. Le souci de la sédation profonde, c'est que ça peut être parfois très long. Voilà, ça peut aller jusqu'à 3 semaines, voire plus. Donc imaginez un peu la détresse.
C'est une mort lente, quoi. En fait,
oui, mais très lente.
Par abandon, quoi.
Imaginez les proches. Et puis donc, le paragraphe sur les directives anticipées, qu'il a bien voulu rajouter.
On
ne
choisit
mais...
pas, quoi. On laisse la nature
non,
faire, c'est ça.
Mais les Français ne choisissent pas leur mort. On va mourir, mais on n'est pas propriétaire de notre mort. Elle nous appartient pourtant, mais bon, voilà, on décide
du coup,
pour nous.
Est-ce qu'il n'y a pas une notion de suicide derrière? Est-ce que, justement, on ne voit pas un certain nombre de personnes se suicider?
Heureusement, il y en a, bien sûr, il y en a. Il y en a, mais pas tant que ça, heureusement. Mais en France, il y a des personnes qui sont dans des situations excessivement pénibles. Hein. Juste un, chiffre qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, en France, vous avez 5000 personnes... tous les jours, qui souffrent de douleurs qu'on appelle des douleurs réfractaires, c'est-à-dire qu'aucun médicament ne peut soigner.
Et donc, apaiser,
voilà. Donc vous avez aujourd'hui en France 5000 Français qui souffrent dans leur chair tous les jours de façon horrible et on ne peut rien faire avec un petit soulagement, peut-être avec un peu de morphine, mais voilà, mais c'est inacceptable de laisser les gens dans une telle déchéance parce que ça dure et voilà, donc c'est des choses que, enfin moi, à titre personnel, je me dis ne pas vouloir voir vivre. Voir pour ses proches, voir pour ses amis, voir, enfin, je sais pas, quoi. C'est inacceptable de laisser souffrir les gens, même si le corps médical vous dit qu'il est là pour soigner et pour guérir. Il y a un moment où ils savent très bien que la guérison est impossible. C'est ainsi fait. Là.
Est-ce que vous avez le sentiment, quand même, que depuis 40 ans, on assiste quand même à une évolution qui est peut-être très peu perceptible, mais est-ce que vous sentez qu'il y a quand même une évolution et qu'on y arrive?
Je ne sais pas si on va y arriver tout de suite, mais comme l'a dit monsieur tout à l'heure, c'était un sujet totalement tabou. Il y a 40 ans, on n'en parlait pas du tout. Là, on commence à en parler par des affaires médiatisées, comme quoi parfois la médiatisation peut avoir du bon. On en parle. C'est-à-dire qu'on en parle parmi les jeunes, on en parle parmi les moins jeunes, on en parle dans les familles.
Est-ce
on
que
en parle
c'est moins tabou chez les nouvelles générations?
Non, je crois pas. Enfin, moi, hier soir, j'ai vu une jeune fille de 21 ans qui se présentait.
Est-ce que vous, les jeunes, vous en parlez entre vous de la mort?
Non, la mort fait peur, je pense.
Elle fait peur encore aujourd'hui?
Oui, aux jeunes particulièrement, mais
oui.
Après...
Je pense qu'on est amené à en parler quand on vit ça.
Ouais, toi, voilà. Plus très jeune, maintenant.
Oui, déjà, quelques années de plus, mais c'est vrai que plus on vit, plus on est confronté justement à la mort de proches, etc.
Proches,
donc plus on a peut-être l'occasion d'en parler et de débattre là-dessus. Quoi.
Non, mais moi, je pense que c'est quand même des sujet qu'il faut justement, c'est peut-être à nous les jeunes d'essayer de l'intégrer dans notre société, la faire prendre conscience, je sais pas, ceux qui nous entourent, peut-être que nous c'est à nous à débloquer ces tabous, qu'on arrête
de... Ça sera à vous demain, parce que là nous la génération, enfin pour moi ça sera un peu un combat, on va dire, long, mais juste une précision par rapport à ça, je pense qu'on est une des seules associations en France où on a une cellule de jeunes qu'on appelle les jeunes ADMD. Et qui commencent à être nombreux et qui se mobilisent cet été. Ils ont fait le Tour de France. Et ils ont osé faire le Tour de France, non pas en vélo, hein, comme les autres, mais ils sont allés sur toutes les villes touristiques. Donc ils sont allés parler de la mort aux Français en vacances au bord de la plage. Et ils ont fait 21 villes. Donc comme vous l'avez dit, mais c'est tout à fait ça. Ouais. C'est les jeunes qui doivent porter le message pour que demain on y arrive.
Super. Merci. Est-ce que vous avez éventuellement un dernier message particulier à faire passer?
Non. Mais merci à vous de m'avoir invité. Et puis peut-être m'excuser.
Vous avez un site internet ou...
Oui, on a un site. Il y a une adresse internet pour l'association. Hein, donc c'est admd48@admd.net. Voilà, on peut me joindre. C'est moi et puis l'équipe qui m'entoure, qui répond. Donc il y a un numéro de téléphone. Voilà. Et puis ensuite, il y a un blog au niveau national qui est le blog de l'ADMD qui met à jour les actualités, qui est excessivement bien fait parce qu'il est... Il est tous les jours remis à jour avec des informations de tous les pays, de la France. Enfin, voilà, donc...
Donc pour vous, ce qu'il faut, c'est surtout en parler. Donc vous êtes très ouvert à ces discussions et en même temps à ces moments un peu de conférence, de convivialité, de débat autour de ce...
Mais il faut échanger, il faut parler avec tout le monde. Hein. Ouais. Hier soir, juste à titre anecdotique, les trois premières spectatrices qui sont arrivées à Marvejols pour assister à l'avant-première, c'est trois religieuses.
Ah, d'accord.
Eh oui. Donc, je me suis dit, mais
elles se posent aussi des questions.
Eh ben, elles se sont, voilà, elles souhaitent se poser des questions parce qu'elles considèrent que la mort, ben, c'est un cycle de la vie. Et donc, outre le fait qu'elles voulaient voir le film, hein, donc elles sont venues, elles sont restées, elles n'ont pas posé de questions, mais j'étais surpris parce que je pensais que ça pouvait être des gens réfractaires. Pas du tout. Elles ont regardé, elles ont apprécié le film, elles ont applaudi. Et pour moi, ça a été une petite surprise de voir que les trois premiers, plus la jeune fille de 21 ans, je ne m'attendais pas du tout à ça parmi les premiers spectateurs hier soir.
D'accord. Merci beaucoup.
Merci, merci à vous. Beaucoup, Marc Moulis, d'avoir accepté de participer à cette émission. On marque une courte pause. Tout de suite, c'est Hope de Radio Citizen.
FM Le Mag.
de retour dans le MAG avec nos deux invités, Pierre Delmas, directeur du Centre de loisirs de la ville de Mende, accompagné de Manon, une des animatrices.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes ici pour vous parler de l'accueil de loisirs sans hébergement maximum. Rappelez-nous ce que c'est.
Alors, l'accueil de loisirs, c'est... il est apparu suite à la fermeture des Farfadets, il y a quelques années, et d'un besoin de la ville de Mende d'avoir donc un centre de loisirs. Donc, c'est la Ligue d'enseignement qui a répondu avec la création de ce centre de loisirs. D'abord, à l'école du groupe scolaire. Ensuite, on a déménagé donc maintenant à l'espace Jean Jaurès, dans les lieux de la maison solidaire. L'idée, c'est de pouvoir, de pouvoir accueillir des enfants de 3 jusqu'à 11 ans inclus, pendant les mercredis, les petites vacances, et tous les moments où...
Le temps périscolaire et extrascolaire.
Oui, voilà, oui. Le moment où les parents peuvent avoir besoin
d'un service d'accueil
pour les enfants.
Alors, combien de temps ça dure en général? C'est sur l'ensemble de la journée concernant le mercredi? Alors, c'est demi-journée, en vacances, les périodes de vacances, voilà.
Concernant toutes les périodes, d'ailleurs, ils ont la possibilité de s'inscrire soit la journée. Donc, tout on est ouvert à partir de 7h30 le matin jusqu'à 18h15 le soir, pour essayer de répondre aux besoins des parents qui travaillent, simplement. Mais après, ils peuvent venir aussi à la demi-journée, avec ou sans le repas.
Donc ça, c'est les mercredis.
Les mercredis.
Après, les petites vacances scolaires.
Les vacances scolaires. Voilà. Il n'y a que la période, en fait, entre Noël et le 1er de l'an, on n'est pas ouvert, mais la plupart des... Enfin, toutes les vacances, on est ouvert.
Est-ce que vous faites les jours fériés?
Alors, jours fériés, non, puisque là, c'est des moments où les parents...
C'est férié aussi pour les animateurs qui...
C'est ça. qui travaillent, mais c'est le moment où les parents ont plus de possibilités de garder leurs enfants, quoi.
Alors, quel est le format? Comment se découpent les animations que vous proposez aux jeunes?
Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la journée? Je pense que voilà, maintenant pour répondre sur les différentes activités qui peuvent exister maintenant, plus sur les 3-6 ans en fait.
Donc vous avez décomposé en fait l'accueil pour les 3-6 parce que c'est pas le même.
Voilà, il y a deux groupes. Il y a un groupe pour les 3-6 ans, 3-5 ans, qui sont les petits, on va dire. Et pour les 6-11 ans en fait, parce que voilà, ils n'ont pas les.
Ça correspond en gros à la maternelle et au primaire.
Voilà, exactement. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins d'activité, ils n'ont pas les mêmes rythmes de vie, mais.
Alors, vous leur proposez quoi maintenant pour les 3-5 ans si j'amène mon fils de 3 ans?
Alors, on peut leur proposer plusieurs activités. Ça peut être de l'activité manuelle, de l'activité culinaire. Après, on peut faire du sport aussi et des grands jeux. C'est vrai que c'est assez varié.
Donc, en fait, vous avez un programme par semaine, ça? Par mercredi, ça marche comment?
Alors, le programme, il est prévu tous les mois. Donc, c'est l'équipe d'animation qui se réunit et qui décide... d'un programme, d'un thème, des différentes activités que ça peut composer. Voilà. Donc on va avoir différentes activités. On a la possibilité aussi d'avoir des partenaires comme Mec de Jeu, qui fait aussi partie de la Ligue de l'enseignement, qui est un très bon outil parce que on a des animateurs qui sont
du domaine du Mec de Jeu. C'est un centre de la Ligue de l'enseignement qui est à Balsièges.
Voilà, qui est un accueil à l'année.
Et donc qui est un peu un centre de ressources pour vous sur l'activité du matériel.
C'est un des outils complémentaires de la Ligue d'enseignement. C'est-à-dire qu'on a le centre de loisirs et puis on a un Mec de Jeu qui, ne serait-ce que les repas, sont préparés à Mec de Jeu.
D'accord.
Mais tout après,
les choses sont faites sur Mec de Jeu,
voilà,
amenés à midi,
donc à la maison solidaire. De qualité, puis de personnes qu'on connaît, qui sont derrière, de traçabilité, etc. On sait que les cuisinières vont faire des bons repas.
Mais la nourriture fait partie de votre projet pédagogique.
Bien sûr, oui, c'est important d'avoir toutes ces choses-là, au-delà de la cuisine qui nous est amenée, de comprendre aussi, d'éveiller au goût. On a un séjour aussi qui fait pas partie du centre de loisirs, mais qui est les petits marmitons, où là, pendant 2 semaines, les enfants vont cuisiner, vont apprendre d'où viennent les produits, etc. Mais c'est aussi dans notre projet pédagogique, c'est aussi inscrit d'avoir des ateliers de cuisine pour pouvoir comprendre ce que c'est la nourriture, pouvoir goûter différentes choses, d'apprendre de nouveaux goûts. Et développer ce sens-là, quoi.
Donc Manon, tu fais des gâteaux, c'est ça?
Oui.
Ils sont bons?
Oh oui, très bons.
Très bons. Et donc, tu accueilles les petits. Donc, comment ça se passe, cette relation? Parce que souvent, pour les mamans ou les papas, d'ailleurs, hein, c'est pareil, d'amener son petit le mercredi matin, tout ça, ou le mercredi après-midi, c'est un petit peu difficile. Il y a un accueil spécifique sur les petits? Comment ça marche?
Oui. Il faut établir une confiance quand même avec l'enfant. Il faut que l'enfant ait confiance en nous, et les parents aussi surtout. Et ça dépend des enfants. C'est vrai qu'il y a des enfants qui sont un peu plus difficiles pour se détacher des parents. Donc c'est vrai que là, on accompagne l'enfant vers le jeu, ou on essaye de lui changer un peu les idées et de rassurer surtout les parents que tout va bien se passer.
D'accord, et ça se passe bien ?
Oui. En général, c'est vrai que les parents sont assez contents.
Alors, il faut peut-être dire qu'il y a des formations aussi pour encadrer, que ce ne sont pas n'importe qui encadre les enfants tous les jours, hein, que c'est ça ?
Toujours dans le cadre du lien qu'on peut avoir entre ces outils, c'est vrai que sur le domaine de bec de jeu, on accueille donc des formations pour les BAFA. Nous, l'intérêt, c'est de pouvoir former ces jeunes à devenir animateurs, ce qui est de lourdes responsabilités. On a souvent l'image de l'animateur qui est en vacances quand il vient encadrer les enfants, alors que c'est pas du tout le cas. C'est un métier qui est difficile, hein, où il y a de grosses responsabilités. Et l'avantage nous qu'on a, c'est qu'on est centre de formation aussi, donc on peut suivre le parcours de ces jeunes, connaître leurs compétences, les accompagner après sur du travail, etc. Je pense que voilà, Manon a fait sa formation dans le cadre de la Ligue d'enseignement. Mais
alors Manon, tu as fait formation BAFA, c'est ça ?
Oui, j'ai été formée au BAFA et j'ai passé mon CAP petite enfance qui est essentiel avec les 3-6 ans.
D'accord, donc ça fait une formation assez complète, assez complémentaire.
Oui.
Très bien.
Est-ce que vous avez des ramassages scolaires pour faciliter un peu justement les déplacements par rapport aux parents-enfants pour vous les amener chez vous ?
Alors sur la ville de Mende, effectivement, il y a un transport qui se fait et qui amène les enfants sur le centre de loisirs. Donc les parents ont pas à s'en occuper, ils sont récupérés.
Ramassage sur toutes les écoles.
Toutes les écoles de la ville.
Ça c'est le mercredi ?
Le mercredi seulement.
D'accord.
Oui. Après pas sur les vacances, hein, mais sur le mercredi avec la réforme de l'école qui a amené justement une réforme des rythmes scolaires. C'est vrai que ça peut être compliqué pour les parents d'aller venir chercher à l'école pour les ramener.
D'accord, ça a été fait dans le but de faciliter les parents qui déposaient les enfants le matin,
voilà,
à 8h, puisque c'est en général de 9h midi ou 8h midi, mmh, mercredi, enfin 8h-11h, de ne pas récupérer les enfants, mais qu'ils soient repris directement dans un petit bus pour être amenés sur le centre de loisirs avec le repas, c'est ça ?
C'est ça, le repas est fait donc du coup au centre de loisirs, mais... Il y a des personnels des écoles qui accompagnent les enfants sur ce ramassage scolaire pour nous. C'est vraiment un plus, puisqu'il y a beaucoup de parents qui n'avaient pas de solution pour faire ce transfert-là et qui se demandaient comment elles allaient faire, etc. Et quand on a pu répondre à cette demande, à ce besoin par ce service, c'était vraiment un avantage pour eux.
Qu'est-ce que ça amène aux parents de mettre leurs enfants aujourd'hui dans un LSH plutôt que de les laisser avec papy, mamie ou à la rigueur tout seul à la maison, puisqu'il y a quand même jusqu'à 11 ans des enfants.
Ben déjà, il n'y a pas forcément mamie et papy à côté. Je pense aussi que c'est...
Pour certains, oui, c'est sûr. Hein.
Pour certains, il y en a, ils n'ont pas le choix, je pense, de mettre leurs enfants... dans un centre de loisirs plutôt que de rester à la maison, parce que des fois ils n'ont pas l'âge de rester seuls à la maison, ou les parents n'ont pas forcément confiance en eux pour les laisser seuls, et du coup je pense que c'est un bon moyen de les laisser au centre de loisirs.
Bah, au-delà de ça, on a voulu faire le cadre de l'éducation populaire, hein, la Ligue d'enseignement. L'idée c'est de ne pas faire de cet endroit une simple garderie. C'est vraiment d'avoir des activités de découverte, d'avoir plein de choses autour. On peut être sur la découverte de l'audiovisuel, on peut être sur la découverte de la nature.
Création de petits films, ce que vous nous disiez.
Voilà, création de petits courts-métrages. On a aussi le domaine de bec de jeu avec des animateurs qui sont là pour la découverte de la nature, de l'environnement, des pratiques de pleine nature, des choses comme ça qui sont un vrai plus, quoi, je pense, pour des enfants sur l'apprentissage de la vie, simplement.
La sociabilisation.
On essaie d'intégrer aussi les activités dans le cadre de la ville de Mende, de faire appel aussi aux commerçants des moments pour des grands jeux. Ce qui permet de garder ce lien avec le lieu dans lequel ils vivent.
Donc il y a toute une équipe, si on résume, il y a toute une équipe pédagogique avec un vrai projet derrière, des structures associées de la Ligue de l'enseignement qui vous fournissent à la fois du matériel, du personnel, des savoir-faire et de la formation.
Tout à fait.
Tout ça, ça fait un tout et ça donne une cohérence dans votre projet qui fait que les parents, quand ils mettent leurs enfants, en fait, il y a une vraie plus-value. Oui. Sur ce que vous apportez. C'est pas de la garderie, ce que vous avez dit. Et c'est aussi des projets intergénérationnels, j'ai cru comprendre.
Alors oui, on a rencontré donc l'APAD. L'EHPAD, pardon, oui. je confondais. J'ai oublié le nom, pardon. De Piancourt, voilà.
D'accord.
L'EHPAD de Piancourt, avec qui on avait déjà fait des choses. Hein. Il y avait déjà eu des interventions qui étaient faites des enfants dans le cadre de cet EHPAD pour jouer aux jeux de société, pour...
Donc c'est en fait une rencontre entre... une génération montante et puis une génération qui est là en maison de retraite, enfin en EHPAD, hein, et qui n'a pas forcément de contact avec les enfants, c'est oui. ça ? Et c'est de retrouver ce lien un petit peu.
Voilà, c'est de recréer ce lien de que les enfants puissent venir donc à la résidence Piancourt, qui puissent fabriquer des jeux. Je pense que c'était le projet qui a été fait sur le mois suivant. Là.
Oui, sur ce mois-ci, du coup, on a comme projet de créer des jeux de société avec les enfants pour qu'ensuite nous allons jouer avec les personnes âgées des jeux que les enfants auront créés.
D'accord, directement sur l'établissement des personnes âgées.
Voilà, c'est ça. D'accord. Nous rendrons.
Il y a un petit déplacement, un goûter, on joue avec. Donc ça, vous l'avez expérimenté déjà ou pas du tout ?
Bah, ça a été fait il y a quelques années, ça s'est arrêté pendant quelques temps. Puis l'idée, c'est de repartir à partir du mois de novembre et les mois suivants, d'avoir ce rendez-vous régulier à la résidence Piancourt avec les personnes âgées pour qu'elles puissent nous parler aussi de leur vécu, qu'il puisse y avoir cet échange. Selon les thèmes qu'on propose, qu'elles puissent nous raconter comment c'était elles quand elles étaient plus jeunes.
Donc une transmission de leurs histoires, c'est ça ?
Voilà.
Dans le cadre des différents thèmes qu'on peut choisir, le jeu de société, ça peut être tout simplement à quel jeu de société elles jouaient quand elles étaient plus jeunes, etc. C'est important d'avoir ce lien-là qui est pas toujours présent, hein, parce que les enfants ont pas toujours leurs grands-parents à proximité. Et puis les grands-parents n'ont pas toujours des enfants ou de la famille qui puissent voir régulièrement. Quoi.
Et comment se passe cet échange ? Est-ce que peut-être, je ne sais pas, les enfants sont un peu réticents, en tout cas au début, de se présenter à la maison de retraite, de voir les résidents ou est-ce que l'échange est facile ? Ça se passe, comment ça se passe avec eux ?
Du vécu qu'on a pu avoir, quand même assez facile. Ils étaient contents d'y aller. Ils demandaient même quand est-ce qu'on pouvait aller à la maison de retraite,
ou
à l'EHPAD, ou à la résidence. Et puis moi, j'avais l'occasion aussi de travailler avec Tom Torel, qui intervenait justement à la résidence Piancourt.
Dans le cadre du projet culturel.
Dans le cadre du projet culturel et qui était là pour mettre en chanson un peu leurs souvenirs. Et donc moi je filmais à ce moment-là son intervention et ça tombait la veille du centre de loisirs et donc j'avais vous êtes du centre de loisirs mais c'est super qu'ils viennent etc et ils se préparaient ils s'habillaient etc c'était vraiment le petit événement de la journée quoi c'est vrai qu'il y avait toute une
C'est vrai que parfois on manque un peu d'animation y compris dans les maisons de retraite ou voire surtout dans les maisons de retraite comparées au centre de loisirs. Et c'est un double jeu, c'est à la fois pour les jeunes et pour les résidents tout simplement, une activité en plus la journée, c'est un échange qui les détend, ça a l'air assez positif quoi des deux côtés de génération.
J'avais vu un exemple dans une je sais plus trop où en fait où ils ont créé une crèche, une halte-garderie
partagée
dans l'établissement dans un EHPAD. Bon, ce qui m'avait choqué, c'est qu'en fait il y avait une espèce de verrière. Et donc, on voyait du côté des personnes âgées, les personnes âgées qui venaient se coller contre la vitre pour regarder les petits, quoi. Mais ça faisait comme un aquarium, en fait. Bon, alors, j'ai trouvé ça un peu étrange, mais pourquoi pas? Donc, c'est en phase d'expérimentation, je crois. Hein, et ça donnera peut-être des petits pour faire justement ce lien, qu'il n'y ait pas de rupture entre les gens qu'on isole comme ça dans les maisons de retraite. Bon, on cherche aussi d'autres solutions, donc c'est pas forcément une mauvaise solution les EHPAD, c'est pas ce que je dis, mais c'est vrai qu'il y a aussi besoin peut-être de réintégrer ça dans une société en tout cas plurielle quoi, avec des tranches d'âge très très différentes.
Ce qui paraît très normal dans notre société, que ce soit en Afrique ou ailleurs, que les personnes plus âgées s'occupent des plus jeunes, etc., et que ce lien est permanent, hein. C'est vrai qu'en France on le perd un petit peu. Et c'est bien de pouvoir retrouver ça, d'avoir différentes activités, de partager des choses. Puis
je pense que les personnes âgées, elles ont beaucoup de choses à raconter et à dire. Beaucoup. On l'a vu à travers le film que vous avez réalisé il n'y a pas très très longtemps, hein, justement avec Tom Torel. Il y avait une richesse de propos, de souvenirs qui c'était magnifique. Quoi, hein.
C'est la transmission du savoir. Hein. C'est extrêmement important parce que moi je le connais un petit peu parce que j'ai une parente en maison de retraite. Je crois qu'elle apprécie énormément quand les enfants des écoles, c'est pas un centre de loisirs, viennent passer une heure, deux heures. Alors il y a du chant, il y a des jeux, le loto leur plaît beaucoup. Ils partagent des cartons. Ça c'est un truc qui les passionne avec les gamins. Et puis gagner un petit lot, voilà. Moi je crois beaucoup à ça. Je les félicite pour le travail qu'ils font parce que d'abord ils remplissent un vrai service public municipal. C'est exceptionnel ce qu'ils font. Donc, juste pour leur dire qu'ils vont faire des envieux à Marvejols, hein, puisque là, nous n'avons plus ce genre de service à Marvejols. Donc je pense que les auditeurs marvejolais qui écoutent risquent dire, ils n'ont pas la chance d'avoir Pierre et Manon, mais bon, on a d'autres personnes qui pourraient le faire, donc j'espère qu'on pourra rétablir tout ça très vite. Et puis je pense aux parents qui aujourd'hui se retrouvent comme chez nous avec les enfants à charge, ils se demandent aujourd'hui pourquoi ce service n'existe pas, et c'est extrêmement important qu'occuper les enfants, c'est d'abord c'est l'avenir des enfants. On les occupait dès 3 ans, pendant des périodes comme ils le font, c'est remarquable. Mais j'insiste bien, moi, sur le volet service public municipal. Je sais qu'Amande, ça fonctionne bien, mais vraiment, chapeau.
Oui, c'est un vrai service. Ouais.
Ouais.
Donc, un projet avec l'EHPAD, la maison de retraite, et aussi un projet avec la radio.
Oui, ben, un projet avec, avec votre radio, avec 48FM.
L'idée... Alors, c'est quoi ce projet?
L'idée, ben, c'est d'intégrer justement les enfants à la découverte de l'audiovisuel et notamment
du
média, voilà, la radio, de faire une petite émission sur un sujet qu'ils ont choisi, de faire des micro-trottoirs, d'avoir un petit peu, voilà,
tous ces... Devenir des reporters.
Devenir des reporters, exactement, et puis d'avoir tous les aspects, que ce soit la présentation d'une émission, que ce soit la recherche d'informations, que ce soit, enfin, voilà, les petits micro-trottoirs qu'ils vont pouvoir faire, puis aussi simplement des petits moments de vie du centre de loisirs, des petites chansons des petits, des choses comme ça, qui peuvent illustrer un petit peu notre vie au quotidien dans le centre de loisirs, et puis les petites touches d'humour qu'il peut y avoir de la part des enfants, parce qu'ils ont une vision du monde qui est parfois amusante, mais qui peut être très juste aussi, quoi.
Alors, comment ça s'organise? Est-ce qu'il y a un lien chaque mercredi par rapport, en tout cas, à ce projet précis? Je pensais, par exemple, si un enfant vient le premier mercredi du mois et qu'il revient seulement, voilà, il n'est pas forcément obligé d'être là chaque mercredi. Je veux dire, est-ce qu'il a un suivi de son projet?
Alors, il y aura vraiment un jour où on va être dans la création de l'émission en elle-même, avec la présentation, etc., qui serait le dernier mercredi du mois pour le mois de novembre. Mais après, à côté de ça, il y aura toujours des petits moments où on aura de quoi enregistrer et où ils vont pouvoir participer et dans tous les cas pouvoir écouter. Donc ça serait, je crois, les premiers mercredis du mois suivant et oui, le samedi aussi.
Voilà.
Où ils vont pouvoir écouter ce qui s'est passé.
Une rediffusion
de l'enregistrement.
Un peu à l'instar de ce qui se fait dans Radio Gazouille avec...
voilà, c'est un peu le même procédé, quoi.
Donc on voit beaucoup d'activités très riches, hein, une façon aussi assez dynamique d'intégrer des nouveaux médias et de s'insérer aussi socialement.
C'est ça. L'idée, c'est de pouvoir avoir un suivi sur un mois entier, d'avoir un thème, de pouvoir découper ce thème quand même en plusieurs parties, comme on disait, parce que effectivement les enfants ne sont pas toujours là tous les mercredis, mais qu'ils puissent quand même participer à mettre leur pierre à l'édifice, quoi, du projet.
La construction,
quoi.
Du projet. Mmh.
Et à chaque fois, donc, de nouveaux sujets. Les sujets sont sélectionnés, choisis avec les enfants directement.
Alors, ça peut être, voilà, du coup, les attentes des enfants sur le mois suivant, etc. Puis c'est aussi une décision de l'équipe d'animation en fonction du moment de l'année. Enfin, on va arriver à Noël bientôt, donc forcément, il y aura ces thématiques-là qui vont ressortir, quoi.
Alors ça, c'est juste pour savoir, ça concerne toujours les 3 à 11 ans. C'est pas forcément 6, 11, là, on n'est pas...
Non, c'est vrai que les 6, 11 vont être un peu plus à même de présenter, de faire des choses comme ça, d'être dans la création de l'atelier en lui-même sur la radio. Mais ça n'empêche pas les 3, 6 ans de participer sur des petites chansons, comme disait, sur des petites choses comme ça, sur leur poser des questions sur leur vision du monde, qui est parfois amusante, justement, à cet âge-là, hein, mais qui peut être, comme je disais, aussi très juste. Hein.
La visite du studio de la radio est prévue aussi?
Donc là, sur le premier mois, en tout cas, oui, on viendra le dernier mercredi, sur l'après-midi, pour voir le studio, pour enregistrer l'émission ici, qui comprennent un petit peu comment ça fonctionne, l'envers du décor.
C'est la relève, bientôt. Ouais. Je parle pour moi. Hein,
juste une suggestion, ce que j'ai vu dans la maison de retraite chez ma parente, ils ont fait un truc vachement sympa, ils ont fait une opération selfie avec les enfants. C'est-à-dire qu'ils ont fait des selfies avec les personnes âgées et les enfants, et en fait, je me suis rendu compte que dans les chambres, les retraités avaient, ou les résidents avaient gardé cette photo au plus près d'eux, parce que ce sont des souvenirs, c'est marrant, je trouvais ça marrant. Alors, ils ont fait un mur d'images à l'entrée de la maison de retraite, comme ça, quand les parents viennent, ils voient ce qui se passe. C'est vraiment très, très, très symbolique, mais je trouvais ça très marrant.
Après, il y a le problème du droit à l'image. Qui
voilà. Après, voilà, il faut voilà, savoir si les parents sont d'accord. Voilà. Mais ça a été demandé.
Ça peut être
voilà.
Tout à fait.
Ça a été demandé aux parents d'élèves. Ouais.
Non, puis ça garde un souvenir d'un moment.
Je pense qu'il manque sur le centre d'accueil. Il y a des sorties. Je pense qu'il y a beaucoup de choses.
On essaie voilà de.
Qui est très très éclectique toutes les semaines.
On essaie de diversifier, d'apporter vraiment des choses, de la découverte maximum.
Par le jeu, par le plaisir, par tout.
C'est ça.
Bon, ben merci, merci à Maximum. Comment on vous joint? Comment on s'inscrit? Comment ça se passe?
Alors, pour nous joindre, pour s'inscrire, donc c'est le centre de loisirs de la Ligue d'enseignement. Donc, il faut contacter la Ligue d'enseignement au 04 66 49 00 30. L'idée, c'est de remplir un dossier voilà, qui est assez simple, qui est valable un an, donc une année civile, qui sera renouvelée toutes les années. Mais à partir du moment où l'enfant est inscrit, après, il peut venir les jours qu'il souhaite et... sur simple demande des parents.
Soit par mail, c'est ça,
Soit par mail, voilà.
Ou par téléphone.
Ou par téléphone,
oui. D'accord. Le mail, c'est ?
Donc, le mail, donc, c'est folk48@folk48.org. Le site internet, folk48.fr ou folk48.org, les deux fonctionnent, je crois. Voilà, vous pourrez retrouver du coup les plannings sur la partie LSH maximum du site de la Ligue d'enseignement.
Super, ben merci à vous deux, merci à Marc Moulis qui est resté avec nous pour cette seconde partie d'émission. C'est déjà la fin de ce mag, vous pouvez retrouver l'émission sur le site de 48FM, 48FM.org, ou lors de sa rediffusion.
Jeudi à 18h11.
Voilà.
Et samedi.
Merci d'avoir suivi ce mag, on se retrouve dans deux semaines pour traiter de nouveaux sujets d'actualité. Passez une agréable après-midi, à bientôt.
Salut. Au revoir.
Merci, au revoir.
Le département soutient la diffusion culturelle tout au long de l'année en Lozère. Retrouvez sur culture.lozère.fr toute la programmation, les possibilités de pratiques artistiques, des reportages et des jeux pour gagner des places, abonnements et divers lots. Le département vous présente les saisons et les événements culturels en Lozère sur 48FM.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre agenda culturel de cette première semaine de novembre. Bonjour Marie.
Bonjour Ludo.
Alors on commence avec quoi aujourd'hui ?
On commence en musique avec le concert d'Ali Kattab le vendredi 6 novembre à la salle polyvalente de Chanac, organisé par l'association Détours du Monde avec une entrée à 9 euros et 12 euros.
De l'oud oriental et de la guitare flamenca, les cordes d'Ali Kattab forment un pont au-dessus de la Méditerranée entre l'Égypte de son enfance et Jerez de la Frontera, la ville andalouse où il a choisi de s'installer, parce qu'il nous explique les guitaristes y jouent autrement qu'ailleurs d'une façon plus percussive, plus rythmique. Il a vécu notamment avec des gitans et il nous explique aussi qu'il est entré dans leur maison où il a observé la façon dont ils conservent le flamenco et le protège des effets du temps, donc c'est à Chanac.
Voilà. Il y aura de la musique aussi à Marvejols à la Girafe Ronde le samedi 7 novembre avec un concert chanson rock français du groupe Graines de Sel.
Des compositions originales issues d'un mélange de rock, de chansons, d'improvisation. Alors pour leurs influences, ils sont allés creuser dans les mines de sel de la chanson française de Brassens à Brel en passant par Noir Désir, La Mano Negra ou bien Les Ogres de Barbac et La Rue qui est à nous.
Voilà pour la musique, on continue avec de la danse et le spectacle Noun dont nous parle Nicolas Blanc. Le spectacle sera joué le mardi 3 novembre à la salle polyvalente de Langogne à 17h30.
Autre rendez-vous traditionnel en fait, puisque chaque année dans la saison de Langogne, on fait un spectacle à la destination des tout-petits. Premiers émois de spectateurs. Donc là, c'est un spectacle qui s'adresse au public dès un an. Et bon, comme souvent sur ces spectacles-là, c'est des spectacles qui croisent un peu les disciplines. Là, on est sur une forme musique et danse, une pièce musicale dansée en fait qui s'inspire d'un mythe de la création égyptienne où Noun est le chaos, l'incréé, d'où jaillit Ré, le dieu du soleil. Et c'est de cette histoire mythologique en fait que cette compagnie s'est emparée pour nous proposer un spectacle qui mêle voix, danse et percussion en live. Voilà, c'est très, on va dire, très doux, très très court aussi pour capter l'attention des tout petits. Voilà, si vous avez des enfants qui souhaitent vivre leurs premiers émois de spectateurs, voilà, je vous le conseille vivement.
Et de la danse encore, mais cette fois à la Jeunette Verte à Florac, Alice Bergeon nous présente deux spectacles qui seront joués le samedi 7 à 20h30, Les Silences Obligés, suivis de À l'ombre de Corée.
Le samedi 7 novembre, contrairement à ce qui est annoncé dans le programme, le spectacle Petite danse contre l'oubli n'aura pas lieu. Mais pas d'inquiétude, nous vous proposerons bien une soirée avec deux spectacles de danse hip-hop. En première partie, vous découvrirez Les silences obligés de la compagnie Deux temps, trois mouvements, que nous avons soutenu dans cette création sur le thème de l'exil en accueillant les artistes en résidence. En seconde partie, c'est la compagnie Bacchus qui entrera en scène pour vous présenter À l'ombre de Corée, un duo qui nous invite dans un univers poétique fait d'ombre et de lumière, où réel et virtuel se confondent. Si les deux spectacles de cette soirée sont très différents, dans chacun d'entre eux, le talent est au rendez-vous.
Au programme de cette semaine, il y a également beaucoup de théâtre. Alors, un premier spectacle avec le Dalai et moi. Samuel Lecavec, directeur artistique du Cinéthéâtre de Saint-Chély-d'Apcher, nous présente cet événement.
Le Dalai et moi, donc le Dalai Lama et moi, donc c'est la nouvelle comédie de Sophie Forte, une comédie que j'ai vue au Festival Avignon et qui m'a beaucoup fait rire. Donc là, le propos est tout simple. Une jeune femme, la quarantaine, BCBG, téléphone portable, chaussures Prada. Elle part faire un trek dans l'Himalaya et elle va nous raconter tout son voyage. Donc, bien sûr, c'est très drôle. Ses voisins de voyage, ses compagnons de voyage, les compagnons du trek, dormir en tente. Et puis surtout, le choc culturel avec les moines bouddhistes qui sont pour qui tout ce qui est matériel, finance, n'a aucun intérêt. Et du coup, un choc culturel. Et c'est très drôle, touchant, et c'est tiré d'une histoire vraie parce que Sophie Forte a fait réellement ce trek qui l'a beaucoup remué, profondément changé dans son écriture. Et Brock, qui accompagne Claire Gérard, la comédienne, Brock en fait est un musicien bruiteur et qui joue aussi tous les autres personnages du récit. Et surtout, il fait des bruitages, notamment les bruitages à Katmandou de toute la population népalaise ou tibétaine et de tous ces bruits klaxons. Et rien que pour lui, il faut venir parce qu'il est phénoménal. Et on retrouve ce même terme dans toute la revue de presse de ce spectacle, phénoménal bruiteur.
Le spectacle sera joué le vendredi 6 novembre à 20h30 au Cinéthéâtre. C'est un spectacle accessible dès 10 ans. Du théâtre toujours, mais à Marvejols, avec le spectacle « Pourrir pour passer le temps ». Rencontre avec Thierry Arnal, directeur du TMT, qui nous présente cette pièce que nous pourrons également voir le samedi 6 novembre à 20h30 à la salle polyvalente de Marvejols.
Nous accueillerons « Pourrir pour passer le temps », un texte de Sylvain Levé. Sylvain Levé est un auteur ici apprécié énormément à Marvejols et même en Lozère, puisqu'il est venu avec différents spectacles sur notre territoire. C'est une écriture remarquable qui avait d'ailleurs été, avec ce texte-là, finaliste du Grand Prix de littérature dramatique. C'est une pièce qui évoque un monde qui va droit dans le mur en montrant ses penchants les plus bas, la violence, la recherche d'un bouc émissaire, comment on manipule les uns les autres. L'idée de la compagnie Les Grisettes, c'était de s'approprier cette écriture-là et de la donner à quatre interprètes féminines qui vont mêler à la fois théâtre et chorégraphie. Donc on attend beaucoup de cette première et on espère que vous serez nombreux à venir découvrir cette belle écriture et cette belle mise en scène et interprétation.
Samedi 7 à la salle des fêtes de Grèze et dimanche 8 au Petit Théâtre Gérard Boulet de Saint-Chély-d'Apcher, nous pourrons voir Chronique de Xavier Duringer.
C'est un véritable carnet intime, ces histoires d'hommes qui se présentent en une succession de monologues où des femmes viennent nous livrer une part d'elles-mêmes et dévoiler avec beaucoup de tendresse, d'émotions partagées, leur petit bout de femme amoureuse, seule en colère face aux hommes.
C'est un spectacle accessible dès 14 ans. Du théâtre toujours, à Mende, cette fois avec le spectacle Les enfants dans le bleu horizon, au théâtre de Mende à 20h30.
Un spectacle sur la Grande Guerre joué par des élèves de CM2 de l'école Suzette Aguillon, de 6e et de 5e du collège des Trois-Vallées de Florac.
Enfin, l'Hermine de Rien propose une causerie avec Perrine Fèvre de la compagnie Les Arrosseurs en lien avec son prochain spectacle Les Tondus.
Femme tondue à la Libération avec l'intention d'en faire un spectacle pour la rue dont la sortie est prévue fin 2016, début 2017. Accueillie en résidence au sein de l'Hermine de Rien pour l'année 2015, elle va consacrer une semaine début novembre à collecter des informations aux archives de Mende notamment et rencontrer des personnes qui peuvent avoir été touchées par ce sujet. Ce qui intéresse Perrine Fèvre, c'est au-delà du devoir de mémoire de faire résonner ces tontes avec l'histoire plus large des femmes d'hier et d'aujourd'hui. Quand une société traverse une crise, une guerre, la femme redevient une cible. Où en sommes-nous aujourd'hui?
Et enfin, on termine cette semaine avec du cinéma et le mois du film documentaire. Plusieurs projections sont prévues en Lozère cette semaine. Il s'agit d'un événement organisé par la bibliothèque départementale de Pré, le conseil départemental de la Lozère. l'association Les Écrins de Lozère et l'association Cinéco. Donc nous aurons 4 projections cette semaine, l'argent raconté aux enfants et à leurs parents, le jeudi 5 novembre à la salle des fêtes de Barjac à 20h30, de chair et de lait, vendredi 6 à la salle Urbain 5 Amande, suivi à 19h30 de Yago et Sébastien à 21h15, et Madame Lowe à la Maison du Temps Libre à Chirac à 20h30 le vendredi 6. Vous pourrez trouver plus d'informations sur le portail culturel de la Lozère, culture.lozère.fr. Bonne semaine à tous.
Bonne semaine.
Le département soutient la diffusion culturelle tout au long de l'année en Lozère. Retrouvez sur culture.lozère.fr toute la programmation, les possibilités de pratiques artistiques, des reportages et des jeux pour gagner des places, abonnements et divers lots. Le département vous présente les saisons et les événements culturels en Lozère sur 48 FM.